Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 mai 2014. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
À nos sommaires de cette édition.
Au Mali, libération de la trentaine d'otages du gouvernorat de Kidal. Le président Ibeka continue de préconiser le dialogue dans le Nord.
Risque de dérapage en Libye où le chef des forces spéciales se joint au soulèvement des hommes de l'ex-général Haftar.
L'archevêque de Bangui s'inquiète de la création récente d'un nouvel état-major par les ex-Séléka de Centrafrique.
Washington promet une aide humanitaire de 300 millions de dollars au Soudan du Sud.
En Thaïlande, l'armée décrète la loi martiale, mais il ne s'agit pas, selon elle, d'un coup d'État.
L'ambassadeur américain à Pékin, convoqué par les autorités après l'inculpation par Washington de 5 officiers de l'armée chinoise pour espionnage économique.
L'ancien imam londonien Abu Hamza, reconnu coupable de terrorisme par un jury de New York.
Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Moutou et les sports. Pour l'instant, le journal. Au Mali, suite aux différentes condamnations de la communauté internationale et l'implication de la MINUSMA, les 32 otages du gouvernorat de Kidal ont été libérés. Ils ont été remis à la MINUSMA à Kidal. Au même moment, une réunion de haut niveau se tenait à Koulouba entre le Mali et ses différents partenaires sur la situation à Kidal. Le tout a été couronné par une déclaration à la nation du chef de l'État malien qui prône malgré tout le dialogue sous l'égide de la communauté internationale, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Tous les partenaires impliqués dans la gestion de la crise malienne étaient réunis au palais de Koulouba autour du président de la République du Mali, Bert Conders, représentant des Nations Unies au Mali.
Nous avons partagé avec le président qu'après tout ce qui s'est passé, c'est important de continuer de trouver la paix, que l'alternative pour la paix n'est pas facile, mais il faut le faire. Nous avons aussi dit au président que nous avons beaucoup d'estime pour le haut représentant de la République et qui va aider le processus de paix.
Tout juste après cette réunion, il y a eu la libération des 32 fonctionnaires maliens qui étaient pris en otage au gouvernorat de Kidal. Mahaman Babi, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Les 30 otages vont être envoyés sur Gao pour subir des visites médicales. Je pense que pour le gouvernement de la République du Mali, toutes les options restent encore sur la table. Parce qu'il n'y avait pas que la libération. Il y a tout le processus aussi qui est derrière. Il faut que de la bonne volonté soit indiquée. Il faudrait que le Mali puisse exercer sa pleine souveraineté sur Kidal.
Dans une adresse à la Nation, le président malien est revenu sur les valeurs de paix et de dialogue qui caractérisent le peuple malien. Ibrahim Boubacar Keïta.
La souveraineté de la République du Mali sur toute l'étendue de son territoire n'étant pas négociable, nos forces de défense et de sécurité en reconstruction assumeront totalement les missions que la Constitution malienne leur assigne et que les Maliens attendent d'elle. Nous allons donc au dialogue, convaincus que nous sommes que le salut passe impérativement par là.
Les 32 otages, y compris 3 journalistes de l'ORTM Kidal, arrivent à Bamako aujourd'hui. Il reste maintenant la libération du gouvernorat de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
En Libye, le bras de fer entre un général à la retraite et les islamistes armés risque maintenant de dégénérer en une véritable lutte pour le pouvoir, après qu'une unité d'élite de l'armée a décidé hier de se joindre au soulèvement. Le commandant des forces spéciales a en effet annoncé son soutien à l'ancien général Khalifa Haftar et à son armée nationale libyenne. Ces forces se battent depuis des mois contre les militants à Benghazi.
Ce sont les miliciens fidèles à Haftar qui ont suspendu dimanche le Parlement. Après en avoir investi le siège, Haftar lui-même affirme être un nationaliste faisant la guerre aux terroristes pour sauver la Libye face aux extrémistes islamistes. Le gouvernement intérimaire libyen a condamné lundi l'attaque contre le Parlement.
Au Kenya, les autorités annoncent que des militants présumés ont tendu une embuscade dans le nord-est, près de la frontière avec la Somalie, tuant au moins 12 personnes, dont 3 réservistes de la police.
Selon des officiels kenyans, les policiers sont tombés dans l'embuscade quand ils se sont rués sur les lieux d'une attaque dans la région. 2 de leurs véhicules ont été détruits. Le Kenya fait face à une série d'attaques attribuées aux militants somaliens d'Al-Shabaab, dont celle de vendredi à Nairobi. Des troupes kenyanes participent en Somalie même à la lutte contre ce groupe lié à Al-Qaïda.
Les États-Unis promettent une assistance humanitaire de près de 300 millions de dollars au Soudan du Sud, en proie depuis des mois à des affrontements interethniques. Le président Barack Obama a annoncé cette aide hier, à la veille de la conférence des donateurs qui doit s'ouvrir aujourd'hui en Norvège pour réunir des fonds en faveur du Soudan du Sud.
Selon la Maison-Blanche, l'assistance américaine inclut 50 millions de dollars pour appuyer les efforts des Nations Unies qui tentent d'aider plus de 300 000 réfugiés sud-soudanais en Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Ouganda. Plus d'un million de personnes, rappelle Washington, ont été également déplacées par la violence au Soudan du Sud.
Au Niger, Amadou Boubacar Hassan, un activiste de la société civile et enseignant à l'université de Niamey, doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal. Il a été arrêté et incarcéré hier pour avoir, dit-on, jeté le discrédit sur une décision de justice. Les autorités lui reprochent d'être allé trop loin dans ses commentaires. Correspondance depuis Niamey d'Abdoul Razak Idrissa.
C'est sur ordre du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey que Amadou Hassan Boubacar a été interpellé et inculpé du chef d'accusation de jeu de discrédit sur une décision de justice. L'enseignant à la faculté des sciences juridiques de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey et activiste de la société civile a en effet, comme à son habitude, accordé des entretiens à des médias après un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sollicité depuis quelques temps par des députés pour soit demander une interprétation d'un article de la loi fondamentale ou encore pour constater que telle ou telle autre autorité a violé la Constitution. L'arrêt pour lequel Amadou Hassan Boubacar est mis aux arrêts depuis lundi après-midi a été rendu sur requête des députés de la majorité demandant à la Cour de constater la violation par le président de l'Assemblée nationale Hama Amadou de la Constitution. La Cour, en plus de faire suite à cette requête, a indiqué, contrairement à ses prérogatives, qu'elle a le rôle de régulation du fonctionnement des institutions de la République. Et c'est ce qu'a relevé, entre autres insuffisances de cet arrêt, Amadou Hassan Boubacar dans les entretiens qu'il a accordés à la presse. Il a ainsi estimé avoir fait un commentaire technique de cet arrêt, ce qui lui est autorisé en tant qu'enseignant spécialiste du droit, et le procureur soutient le contraire. Il risque une peine d'un à six mois d'emprisonnement et c'est ce mardi qu'est prévue sa comparution devant le juge. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, l'armée a déclaré la loi martiale disant que c'est pour restaurer la paix et l'ordre public après des mois de protestations antigouvernementales souvent violentes. Dans une annonce surprise faite au petit matin, le chef militaire du pays, le général Prayut Chan-o-cha, a dit que cette mesure était devenue nécessaire en raison des craintes d'émeutes dans plusieurs parties de la Thaïlande. L'armée assure qu'il ne s'agit point d'un coup d'État.
Les tensions se sont exacerbées dans le royaume depuis que l'ancien premier ministre Yingluck Shinawat a dissous en décembre la chambre basse du parlement de ce royaume, considérée comme la seconde grande économie du sud-est asiatique. Madame Shinawat et 9 membres de son cabinet ont été démis de leurs fonctions par la Cour constitutionnelle pour abus de pouvoir. Le premier ministre intérimaire Niwatum Rong Bunsong Paisan a déclaré que son gouvernement ne démissionnera pas.
La Chine a convoqué l'ambassadeur américain à Pékin après que les États-Unis ont inculpé hier 5 officiers de l'armée chinoise pour espionnage économique ciblant des entreprises américaines. Pékin a immédiatement rejeté ces inculpations, les premières que les États-Unis aient jamais engagées contre une puissance étrangère pour des cybercrimes. Washington a accusé une unité de l'armée chinoise de piratage informatique contre des compagnies américaines impliquées dans la technologie nucléaire, l'énergie solaire et la métallurgie.
Le ministre de la Justice, Eric Holder, a reconnu hier que toutes les nations mènent des activités de renseignement, mais a-t-il précisé, les États-Unis dénoncent catégoriquement tout espionnage d'une unité de l'armée chinoise à Shanghai et qui fournit d'importantes informations à des entreprises étatiques et privées chinoises.
Un jury de New York a reconnu coupable d'enlèvement et de terrorisme un prêcheur islamiste basé à Londres et connu pour ses virulents sermons anti-occidentaux. Abu Hamza avait été extradé de la capitale britannique où il a sa mosquée.
Et il risque la prison à vie pour implication dans l'enlèvement et la mort de touristes occidentaux au Yémen, des tentatives d'établir un camp d'entraînement terroriste dans l'Oregon et l'envoi d'un de ses fidèles en Afghanistan pour entraînement avec les talibans. Il dément les allégations de terrorisme et ses avocats avaient demandé au jury de ne pas se laisser influencer par l'émotion. Le ministère public soutient qu'Hamza est un menteur et que les jurés ne devraient pas être leurrés par son calme et ses propos rassurants.
Plus d'un quart des 4 millions de Bosniaques ont été touchés par les pires inondations qu'aient connues les Balkans depuis un siècle. C'est le constat fait par le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine. Le point avec Lionel Gahima.
Plus de 100 000 maisons ont été affectées par ces inondations, tandis qu'environ 1 million de personnes ont été privées d'eau et plus de 150 000 foyers sont sans électricité. Des dizaines de milliers de personnes sont sans abri. Au moins 37 personnes sont mortes en Bosnie, en Croatie et en Serbie. Une grande partie de la région est restée sous l'eau hier lundi alors que les efforts de sauvetage et d'évacuation se poursuivaient. Le président serbe Tomislav Nikolic a envoyé un convoi humanitaire dans les villes et les villages les plus touchés. Les inondations ont causé plus de 2000 glissements de terrain qui ont fait ressurgir les mines laissées lors de différentes guerres dans les années 90. Les Balkans ont subi un vrai déluge, l'équivalent d'environ 4 mois de pluie en quelques jours.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Ici Washington, la voix de l'Amérique. En Centrafrique, l'archevêque de Bangui s'inquiète de la création récente d'un nouvel état-major par les ex-Seleka. Après leur réunion à Nélé, les anciens rebelles ont mis en place cette nouvelle direction militaire basée à Bambari. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mgr Dieudonné Zapalenga.
Parler maintenant de l'état-major, nous, on est tombés des nues. Dans un pays, il n'y a pas deux états-majors, il y a un seul état-major. On se demande, cet état-major a été voulu par qui? Sachant que Seleka étant dissoute, sachant aussi que Seleka est une force qui doit être désarmée, comme le stipule les résolutions de la Nations Unies, et sachant aussi que Seleka devait être cantonné, je me pose les questions, pourquoi ce moment bien choisi pour maintenant annoncer un état-major et passer avec les armes devant les forces internationales et les forces nationales? J'ai interpellé la communauté nationale et internationale pour qu'on puisse nous aider à clarifier rapidement cette situation-là.
Mais ces rebelles qui se disent forces républicaines disent que c'est pour protéger les populations dans le Nord.
Je ne pense pas. Il revient au gouvernement. Il revient à la communauté internationale maintenant de protéger les populations. Et si le gouvernement et la communauté nationale n'arrivent plus à protéger les personnes, on aura eu un échec au mandat reçu. C'est la même réponse que je donne dans les zones où se trouvent les anti-balakas. Ce n'est pas aux anti-balakas de protéger la population, c'est plutôt aux forces internationales venues, c'est-à-dire Sangaris, Miska, Lefort, pour protéger la population. Et maintenant, avec l'intégration progressive plus tard des forces républicaines, les FACA, c'est ces forces-là qui peuvent proposer, et non les LRA, et non anti-balaka et non ex-Seleka.
Mais on a vu ce qui reste des forces armées centrafricaines qui étaient parties en déroute et qu'on essaie de rassembler maintenant.
Oui, ces forces sont parties en déroute qu'on est en train de rassembler, mais les forces internationales sont là. Donc les forces nationales, vous avez les gendarmes, vous avez les policiers, vous avez les militaires. Aujourd'hui, il revient à ces forces-là de se déployer pour protéger la population centrafricaine et progressivement voir aussi quelle ossature donner à l'armée centrafricaine, l'aider à reprendre aussi son rôle pour défendre le peuple centrafricain, parce qu'il y a eu une déroute, il y a eu aussi un traumatisme, il y a eu aussi des divisions. Tout cela, il va falloir les rassembler, que cette armée devienne une armée républicaine et non une armée ethnique, tribale, pour ne pas dire régionale.
C'était Mgr Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Les militaires américains sont persuadés que les Chebabs vont poursuivre leurs menaces et attaques contre les pays qui contribuent aux troupes de l'AMISOM, la force africaine en Somalie. Les précisions d'Issa Napon.
Le centre de commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, croit que les Chebabs vont continuer d'attaquer les pays qui fournissent des troupes pour combattre en Somalie. Même si les Chebabs ont perdu du terrain ces derniers mois, pour David Rodriguez, le commandant d'AFRICOM, le groupe islamiste continue d'être une menace. Je pense qu'ils vont continuer à s'en prendre aux nations qui fournissent des troupes afin de perturber et frustrer les populations de ces pays et amoindrir leur soutien à l'AMISOM. Ce qu'ils veulent, c'est que ces pays quittent la Somalie. Pour cela, ils vont les menacer, ils vont les attaquer pour montrer et démontrer aux populations de ces pays que ça ne vaut pas le coup de continuer à soutenir l'AMISOM. Dans ce sens, le Kenya a subi une nouvelle attaque vendredi dernier avec les explosions de deux voitures piégées qui ont fait 10 morts à Nairobi, la capitale. L'attaque a eu lieu alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis venaient juste de déconseiller à leurs citoyens de se rendre dans certaines régions du Kenya à cause des menaces sécuritaires. Pour le général Rodriguez, les Chebabs restent une menace pour les intérêts américains dans la région et en Europe et ils ont affirmé qu'ils souhaitaient mener des attaques sur le territoire américain. Le problème, c'est que les Chebabs se focalisent maintenant sur des attaques asymétriques et ils ont ajusté certaines de leurs stratégies il y a un an en menant ce type d'attaque terroriste spectaculaire. Le groupe Al-Shabaab avait fait la une pendant plusieurs jours en septembre dernier après l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi qui avait fait 67 morts. Les États-Unis forment actuellement les troupes de l'AMISOM avant qu'elles ne partent en Somalie. Ainsi, nous travaillons avec les troupes de chaque pays pour les aider à renforcer leurs capacités, partager les informations entre toutes les agences afin d'avoir les meilleurs renseignements possibles sur les menaces qui pèsent sur leur pays et territoire d'origine. AFRICOM a aussi une petite équipe au quartier général de l'AMISOM. Pour rappel, les pays qui fournissent des troupes à l'AMISOM sont le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Burundi et Djibouti.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Revenons ce matin sur ce développement majeur dans le domaine de la recherche contre le cancer. Une Américaine de 49 ans, Stacy Erolds, qui luttait ces 10 dernières années contre un cancer de la moelle osseuse, est en totale rémission depuis qu'elle s'est vue injecter il y a environ 10 mois une dose massive de virus modifié de la rougeole. Toutefois, le traitement prodigué à une autre patiente n'a pas eu le même effet. Pour des explications, Jacques Aristide a joint l'un des chercheurs impliqués dans le projet, le docteur Roberto Cattaneo de la Mayo Clinic.
Oh, ça, c'est une étude clinique de la première phase. Alors, ce qu'on voulait prouver, c'est simplement si le virus est toxique. Ce qu'on fait avec ces patients, c'est de donner du virus à des doses de plus en plus grandes pour voir pas s'il est efficace, mais s'il est toxique. Et puis, il se fait qu'un des premiers patients qui a été traité à une très haute dose a eu une rémission. Mais justement, ça veut dire encore rien sur la reproductibilité de ce traitement.
Quelque part, il faut être très prudent avec le terme de guérison et plutôt parler de rémission, comme vous l'avez dit.
C'est absolument correct. Ce patient est en bonne santé depuis 10 mois, 11 mois, mais on ne sait pas comment ça va aller dans les prochains mois.
Mais le traitement n'a pas eu le même succès avec la deuxième patiente, dont le cancer a néanmoins été affaibli par cette virothérapie, n'est-ce pas?
C'est juste. À nouveau, ça, c'est pas encore un traitement approuvé. C'est simplement un clinical trial. C'est simplement un essai. Et Justement, on ne peut pas faire des conclusions à partir d'un seul cas.
Mais l'annonce elle-même vient confirmer que la virothérapie est une approche prometteuse pour faire progresser le traitement de certains cancers, d'après vous ?
Absolument. À nouveau, c'est une première démonstration que le virus qui est donné à travers le sang, qui est injecté d'une façon systémique dans le patient, peut trouver le tumeur et l'éliminer.
D'autres essais vont-ils avoir lieu ?
Oui, ça va continuer. Il y aura une phase 2 de ce type de traitement pour le myélome. Et puis je crois que ça va s'ouvrir cet automne à la clinique Mayo.
Le docteur Roberto Cattaneo, un spécialiste du cancer de la Mayo Clinic, joint dans le Minnesota. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé à la protection des personnes atteintes d'albinisme suite à l'assassinat ce mois-ci d'une femme dans le nord-ouest de la Tanzanie. Madame Pillay a rappelé l'obligation des États à enquêter et poursuivre les auteurs et garantir des soins médicaux pour les survivants et les familles des victimes. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Une victime encore de ces crimes atroces contre les personnes qui sont atteintes d'albinisme, dont cette personne était dans sa maison, dans son village situé au nord-ouest de la Tanzanie. Lorsque ses assaillants l'ont brutalement agressée, les villageois qui étaient à proximité ont entendu ses cris. Et malheureusement, ce meurtre atroce vraiment illustre la situation très difficile des personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie, mais également dans d'autres pays.
Et personne n'est venu la défendre, donc.
En effet, il semble qu'il n'y ait pas eu d'intervention pour la sauver. Toutefois, la police est intervenue dès le lendemain et a arrêté deux personnes. Et c'est essentiel parce que la lutte contre l'impunité est un élément, est une composante majeure pour prévenir ces crimes qui sont toujours perpétrés contre cette communauté qui est extrêmement vulnérable.
Dans votre communiqué, vous parlez de 13 centres de réfugiés, notamment, qui hébergent des centaines de personnes atteinte d'albinisme en Tanzanie, et donc vous parlez des conditions assez déplorables de ces personnes, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un autre sujet de préoccupation pour nous. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui sont atteints d'albinisme sont soit abandonnés par leur famille, soit fuient leur village par crainte des attaques et se trouvent dans ces centres qui sont initialement prévus pour des enfants déplacés ou des adultes qui ont des besoins un peu spécifiques. Et malheureusement, la situation dans ces centres est absolument lamentable. Ils sont surpeuplés, les conditions d'hygiène sont mauvaises et on sait que beaucoup des enfants atteints d'albinisme qui vivent dans ces centres, malheureusement, souffrent de cancer de la peau, et souvent dès l'âge même tout petit, dès l'âge de 3 ans pour certains, en partie parce que le personnel qui s'occupe d'eux ne connaît pas les gestes simples à adopter pour empêcher cette maladie. Par exemple, leur mettre de la crème solaire ou leur donner des chapeaux. De plus, il y a aussi des cas d'abus sexuels qui ont été rapportés dans ces centres. Et en plus, les enfants sont beaucoup laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel scolaire suffisant disponible, quasiment aucun matériel donc pour leur permettre de se préparer un avenir.
Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, jointe à Genève par Nathalie Barge. Et maintenant les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Commençons par la CAN des moins de 20 ans.
Oui, la manche retour du deuxième tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans Sénégal 2015 se joue cette fin de semaine sur le continent. Ce matin, nous nous intéressons à deux matchs. D'abord à Yaoundé, le Cameroun reçoit le Burundi. Malgré le succès 1-0 à Bujumbura, Aboubakar Souleymanou, le coach camerounais, reste prudent.
Ça, il va de notre devoir. Si on veut bien se qualifier pour la suite de la compétition, nous sommes obligés de mettre des bouchées doubles pour venir à bout de cette machine burundaise. Parce que je peux vous rassurer que tout n'est pas encore gagné. Mais ce n'est qu'une partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est à Yaoundé, chez nous. Bon, je pense qu'avec cet avantage psychologique, puisque nous jouons à domicile, nous pouvons dire que toutes les chances sont de notre côté. Mais nous avons été avertis. Maintenant, il est à nous, n'est-ce pas, de prendre toutes les dispositions possibles pour se qualifier pour la suite de la compétition. Ça, je peux rassurer que c'est la mission qu'on nous a assignée, de faire qualifier le pays. Et je pense que nous ne sommes pas sur la mauvaise voie. S'il plaît à Dieu, nous arriverons.
C'était Aboubakar Souleymanou, l'entraîneur des juniors camerounais. À Libreville, le Gabon reçoit le Rwanda. À l'aller à Kigali, les deux équipes avaient fait un score vierge 0-0. Écoutez Rigobert Nzamba du Gabon.
Il faut aussi dire une chose, que le Rwanda aussi devait aussi gagner à domicile. Si le Rwanda n'a pas gagné à domicile, nous partons, c'est vrai, tous avec un score de 0-0. C'est vrai que nous nous jouons avec la pression, mais ce qui est sûr, c'est que nous, chez nous, forcément, il faut gagner ce match. Quelles que soient les conditions, on cherchera à prendre la victoire et puis voilà, pour qu'on poursuive le Ghana.
Est-ce que vous avez les atouts pour?
Mais pourquoi pas? Je crois que vous avez même suivi le match du Rwanda. Malgré nul n'était aussi l'aide de l'arbitre, je crois qu'on devait faire la différence au niveau de Kigali. Le pénalty qu'il nous refuse catégoriquement. Bref, on a eu des occasions. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que c'est une bonne équipe qui revient de la Coupe du Monde. Je crois junior bien cadette. Mais qu'ils sachent aussi qu'ils viennent de retrouver le Gabon à domicile. Et on ne se laissera pas faire. Et forcément, nous chercherons à gagner ce match. La pression ne me fait pas peur. Moi, le plus important, c'est de gagner le match. Et comme nous sommes fixés des objectifs, l'objectif intermédiaire, c'est le Sénégal 2015. Et l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde, bien sûr.
C'était Rigobert Nzamba, l'entraîneur de l'équipe junior du Gabon. À présent, Idrissa, les finales des play-offs de la NBA en basketball.
Les Spurs de San Antonio ont battu hier soir les Thunders d'Oklahoma City. Le score 122-105. C'était le premier des 7 matchs entre les deux équipes dans le cadre de la finale de la Conférence Ouest. Merci à Bagassi Koura. Maintenant, la musique de Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Justin Bieber est de passage en France pour 3 jours. Le chanteur canadien est arrivé le samedi 17 mai à Cannes pour se rendre à une soirée Vanity Fair et donner un concert exceptionnel au VIP Room. On écoute sa chanson ce matin, Bigger.
Mais Roger, Justin Bieber enchaîne les frasques depuis des mois. Au début de la semaine dernière, il avait été accusé de tentative de vol.
Oui, Idrissa, il s'est décidé à répondre aux accusations sur son compte Twitter. D'après la chaîne TMZ, il aurait été agressif envers la mère d'une de ses fans, hein, à qui il aurait tenté de voler son sac. La raison de cette altercation, selon Justin, la maman aurait sorti son téléphone pour prendre des clichés de la star. Mais celui-ci était en pleine altercation avec des personnes de son entourage. Justin aurait réclamé avoir les photos pour les supprimer. Après le refus de la maman, il aurait arraché son sac de main pour récupérer son smartphone.
Justin Bieber dans Big. Merci Roger.
Bonne journée Idrissa et un grand coucou à tous les amis qui écoutent le RM Show à Bangui, Baramo Mingi.
Roger Muntu que vous retrouvez dans le RM Show ce soir à 20h temps universel.
Yesterday, they shine on me. We were middle class, they dream about being.
Voilà, le monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition du matin. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.